Bienvenue à l'émission Les Voix Paysannes, émission de l'ADAR 82. C'est l'association du développement de l'emploi agricole et rural présent dans de nombreux départements de France. Aujourd'hui, on va parler du renouvellement des générations agricoles, de ceux qui freinent ce renouvellement, mais aussi des leviers qui peuvent être mis en place afin de favoriser ce renouvellement. Parce qu'en effet, c'est un sujet très important de cette décennie. Et c'est un sujet qui va être d'autant plus urgent dans les décennies à venir. En Occitanie, comme dans les autres régions françaises, le vieillissement de la population agricole est important. En 2022, la part des chefs d'exploitation de plus de 55 ans est de 39% dans la région. Les installations ne suffisent pas à compenser les départs. En moyenne, sur les 10 dernières années en Occitanie, pour 100 agriculteurs qui arrêtent leur activité, seulement 68 s'installent. Et pourtant, c'est essentiel d'avoir de nombreux agriculteurs dans chaque territoire. Bien sûr, ils assurent notre alimentation, mais aussi leur activité dynamise l'économie du territoire en créant de l'emploi à la fois dans les fermes, mais aussi dans les filières de production. Et c'est aussi eux qui entretiennent les paysages, les champs, les vignes, les haies et les bois. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre, grâce à deux témoignages, ce processus de renouvellement des générations agricoles dans le département du Tarn-et-Garonne. Et plus particulièrement, essayer de comprendre comment les cédants de ferme et les repreneurs sont mis en relation lorsqu'il ne s'agit pas de reprise de ferme familiale. Quelles sont les difficultés rencontrées par ceux qui veulent s'installer et de l'autre côté, par ceux qui veulent transmettre ? Quelles solutions existent pour débloquer des situations et faciliter les installations ? Comment surmonter les inadéquations qui existent, comme par exemple celle de la question financière pour acheter une ferme, ou des décalages entre les générations ? Quel accompagnement et événements existent pour favoriser ces processus ? Voici toutes les questions que nous allons explorer ici, aujourd'hui. Et donc pour cela, on donne la parole à deux acteurs de l'accompagnement agricole afin qu'ils nous partagent leurs constats et leurs conseils. Tout de suite, Pierre-Yves Calmette, conseiller dans les ventes de propriétés rurales à la SAFER du Tarn-et-Garonne. Et juste après, Anaïs Bayol, accompagnatrice dans la transmission agricole dans notre association, va nous témoigner son expérience. Installez-vous confortablement, les voix paysannes commencent.
Pierre-Yves Calmette, je suis conseiller au service propriété rurale de la SAFER Occitanie, donc dans le département de Tarn-et-Garonne depuis presque 20 ans, et au service propriété rurale depuis 10 ans. Voilà. Alors la SAFER, bon, pour ceux qui connaissent, c'est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ça a été créé dans les années 60, de loi fondatrice 60 et 62, loi d'orientation agricole sous le général de Gaulle, quatre grosses missions qui nous ont été dédiées, parmi lesquelles la dynamisation de l'agriculture et de la forêt. Et donc nous, on se retrouve avec mes collègues du service foncier à gérer des propriétés agricoles, notamment des cédants qui arrivent bien sûr à la retraite hein, ou même qui veulent vendre pour X raisons. Et donc nous, on a charge de trouver des repreneurs. On fait l'évaluation, on s'occupe de l'accompagnement. Et c'est vrai que le gros de notre activité, c'est le cœur du métier SAFER, on le dit souvent, c'est le foncier bâti et non bâti. Donc la mission de mes collègues au sein des services fonciers traditionnels ou de propriété rurale, c'est de trouver donc des porteurs de projets et de les accompagner jusqu'au bout, de sécuriser le dossier et de faire que la transaction se passe bien, parce que le dossier, c'est un parcours un petit peu, des fois, long, souvent complexe, parce qu'il y a des questions fiscales, patrimoniales, juridiques, agronomiques aussi, qui sont à prendre en considération, pour que le dossier puisse aller à son terme dans de bonnes conditions, parce que le jour de la signature, c'est pas là qu'il faudra s'apercevoir qu'il y a un problème. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous observez dans le territoire du Tarn-et-Garonne par rapport aux reprises de fermes ?
Alors le Tarn-et-Garonne, c'est un tout petit département. En Occitanie, on est le plus petit département d'Occitanie, très diversifié au niveau de ses productions. La pomme fait le fruit est le secteur d'activité principal. Malheureusement, on a un département qui peut-être jouit de peu d'image. C'est pas qu'on a une mauvaise image, mais on est peu connu. Et donc, dans nos porteurs de projets, au niveau du service propriété rurale Occitanie, on a grosso modo entre 7 000 et 8 000 porteurs de projets. Et on est le département qui n'est pas forcément cliqué au début. Ils arrivent sur notre site pas par dépit. Je m'accrois quand même qu'on a des jolies propriétés. Mais c'est souvent le fait qu'on a des propriétés qui sont un peu moins chères qu'ailleurs. Ou qui ont des atouts en termes de bâtiments ou de surface disponible ou d'irrigation, si bien qu'on arrive à avoir un panel de porteurs de projets aussi diversifié que les propriétés que nous avons à la vente. La difficulté, par contre, c'est qu'on a peu de candidats, et ça, ça revient souvent. On a eu l'effet Covid qui a boosté les ventes, comme partout en France, en métropole notamment. Beaucoup de gens voulaient s'installer à la campagne. Moi, là, peut-être la spécificité du Tarn-et-Garonne, c'est qu'on est un petit peu moins maison à la campagne et plus sur le service propriétaire, reprise de propriété agricole. C'est que moi, j'installe réellement des gens qui sont dans des reconversions professionnelles, ce qu'on appelle les NIMA, donc les gens non issus du milieu agricole, donc qui nécessitent un accompagnement peut-être un petit peu plus pointu, plus fin, qui nécessitent un temps plus long et une mise en relation plus fine avec des collègues de la chambre, de l'ADR, du service comptable comme le CER et autres, pour que le projet soit bien carré, pour que la rétrocession et le lien avec le repreneur se fassent du mieux possible et que le dossier aille jusqu'à son terme, sachant que les porteurs de projets, des fois, ont des images un petit peu naïvement préconçues ou des idées reçues. Et nous, on essaie de les amener doucement et gentiment à la réalité. Il faut être pédagogue et souple, sachant que c'est eux qui portent leur projet. Nous, on est qu'un facilitateur, mais il faut malgré tout qu'on les ramène à la dure réalité. Voilà.
Et vous observez beaucoup de NIMA, du coup, revenir.
Alors là, au jour d'aujourd'hui, on est revenu sans doute sur un marché qui a repris, on va dire, une certaine normalité. On est plutôt sur les chiffres de 2018-2019. Le pic Covid est derrière nous. On est au jour d'aujourd'hui une vingtaine de porteurs de projets proactifs ou sérieux, pour lesquels des relations ont été entamées, des visites ont été entamées sur des propriétés. C'est à peu près mon chiffre, on va dire, allez, entre 18 et 22 en moyenne. Et sur mon catalogue, je dois être à peu près à 40 propriétés à peu près, puisqu'on a beaucoup de départs en retraite, là, c'est depuis 2-3 ans, donc on a un panel qui augmente beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'avec mon assistante, j'ai la chance d'avoir une assistante très efficace, et aguerri, et qui a l'expérience et qui a la capacité à trouver dans notre base de clients potentiels des porteurs de projets qui pourraient être intéressés pour reprendre une exploitation en Tarn-et-Garonne. Là, aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire venir les gens en Tarn-et-Garonne. On a des propriétés qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas forcément chères, mais comme on manque d'images, je trouve qu'aujourd'hui, c'est sans doute notre plus grosse difficulté, c'est attirer les gens, les faire venir pour des visites, voilà.
Et quelles difficultés vous rencontrez dans la mise en relation entre les cédants et repreneurs ? Vous en avez un peu parlé, mais une fois qu'ils se rencontrent...
La difficulté, c'est le manque peut-être de réflexion. Alors, je parle plutôt du côté du repreneur. Le cédant, nous, on s'en est plutôt chargé en amont. Donc, on considère que le cédant, on a fait ce qu'il fallait avec lui, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi à la vente de son outil. On a mis le doigt sur les problèmes, les atouts, les contraintes pour que la propriété puisse être le plus facilement transmissible. Côté repreneur, par contre, il y a du travail à faire souvent pour un petit peu élaguer le projet, l'aider à le recentrer, faciliter certaines choses parce que certains sont très en amont et le projet n'est pas encore abouti, donc aider au maturissement du projet. Ça prend des fois un petit peu de temps. Les renvoyer aussi vers des collègues, que ce soit le centre d'économie, le CER ou la chambre ou d'autres, pour avoir un conseil un peu plus technique. Idem pour le diplôme. Certains ont l'intention ou veulent s'installer en demandant la dotation jeune agriculteur, la DGA, mais n'ont pas fait le parcours, donc il faut qu'ils fassent le parcours. Donc on essaie de les orienter pour que eux, de leur côté, toutes les cases soient cochées vert, c'est-à-dire que le financement, le diplôme, l'architecture, l'environnement de leur projet soient bien carrés à la fois sur le papier, dans leur tête. Et moi, mon boulot, ça va être après de faciliter la relation entre la relation humaine, hein, parce que ça, c'est très, très important, au-delà du technique et du financier, la transmission de l'outil agricole entre le cédant et le repreneur, qui est pas du tuilage, mais qui est cette... cette continuité, cette transmission orale, ce feeling qui se fasse aussi, parce que c'est aussi un peu ça. Il y a un facteur humain qui est à prendre en compte, et ça m'est arrivé des fois d'avoir des blocages purement humains entre le vendeur et le cédant, et le dossier n'est pas allé au bout parce qu'il y avait une incompréhension, parce qu'il y a eu un mot malheureux. Et nous, aujourd'hui, avec l'expérience, je veille à ce que les choses soient dites dès le départ ou expliquées, pour démonter au fur et à mesure des problèmes que je pourrais pressentir. Voilà.
Côté cédant, vous dites qu'ils sont prêts, mais comment est-ce qu'ils peuvent... est-ce qu'ils sont, comment dire, ouverts à aussi accueillir des NIMA parce que des fois, il y a une petite méfiance du fait de...
Absolument. Alors, nous, on essaie de leur dire. Moi, mon service, concrètement, j'ai 98% de NIMA ou de gens... Alors, NIMA, c'est les gens qui sont non issus du milieu agricole, ce qu'on appelait à une époque les gens hors cadre familial, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas issus d'agriculteurs locaux. C'est des gens qui sont soit du département, mais d'une autre commune, soit de la région, soit du national, voire même de l'international. On a quelques clients qui sont originaires de Belgique, des Pays-Bas, d'Irlande. Sur les domaines viticoles, mes collègues ont des clients qui sont des fois du Chili, d'Afrique du Sud, des États-Unis. Donc, on a une clientèle quand même très variée. Le vendeur, lui, on essaie de le rassurer par rapport à ça parce que c'est un peu nouveau pour lui. Il a l'impression, il en a un peu conscience parce qu'il a des expériences, des fois localement, il entend qu'un voisin a vendu à un tel. On essaie de le rassurer en lui disant que de toute façon, ce qui compte, c'est le projet et le porteur de projet. Qu'il soit né à Paris ou qu'il soit né à Montauban, finalement, il n'y a pas de grande incidence. L'essentiel, c'est que ce soit quelqu'un qui soit motivé, qui ait les compétences requises pour reprendre l'outil ou avoir un nouveau projet. Donc nous, on essaie de le rassurer par rapport à ça en lui disant que le porteur de projet, il nous semble sérieux, qu'il a les reins solides au niveau financier. Pour le reste, j'estime que c'est de l'ordre du privé, c'est-à-dire que le porteur de projet, c'est sa vie, ça sera son projet futur. Dans l'ensemble, on va dire que les cédants sont plutôt, voient ça d'un œil favorable, ils sont pas braqués. Il y a que de temps en temps, on a affaire à des gens qui sont un petit peu plus gascons que les autres, qui sont un petit peu têtus, mais ils sont rapidement rassurés par le fait qu'on leur trouve un candidat, puisque au jour d'aujourd'hui, le principal facteur limitant en France, je ne parle pas que la Safer Occitanie, c'est d'avoir des candidats qui sont motivés et qui ont envie de se lancer dans une installation agricole. Aujourd'hui, il faut être courageux, il faut avoir une motivation de faire, il faut avoir une idée aussi précise de ce qu'on voudra vendre. Et beaucoup de gens qui sont NIMA, bon, je trouve qu'ils ont cette intelligence-là, ils ont un vécu, ils ont un regard plus curieux, ils ont souvent des idées un petit peu plus nouvelles, et je trouve qu'ils souvent ils valorisent mieux la valeur ajoutée, donc ils la conservent sur l'exploitation, et ça c'est vraiment intéressant. Et ils font pas que de la reprise bête et méchante, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, je reprends pas l'atelier tel quel, soit ils le modernisent, ou ils l'améliorent complètement, ou ils le chamboulent complètement pour en faire autre chose. Et je trouve ça super. Voilà. Ils apportent un regard frais aussi, nouveau. Voilà. Et les repreneurs, je pense qu'ils y sont sensibles.
Donc tout le travail, c'est de faire coller les deux projets.
Exactement, je suis un wedding planner à ce niveau-là. Voilà. J'essaie de marier les gens. L'essentiel, c'est qu'il faut prendre le temps. Ça, c'est nécessaire. Il faut être bien accompagné dans les deux camps, vendeur et acquéreur. Il faut bien réfléchir. Il faut prendre le temps d'échanger, de confronter, de se tromper des fois aussi, de changer de braquet, de se dire j'ai pris une mauvaise direction, il faut que je fasse autre chose. Pour que le projet puisse aboutir. Et puis, de toute façon, même quand le projet est abouti, garder de la flexibilité, garder cette espèce d'intelligence pour pouvoir changer et ne pas se retrouver dans une situation où on est en banqueroute ou s'entêter à produire une chose qui n'est pas vendue, voilà, qui n'est pas vendable. Voilà.
Et donc, quel levier existe pour améliorer ou faciliter les transmissions
Le premier facteur bloquant, ça reste clairement, on a déjà dû vous le dire mille fois, mais c'est l'accès au foncier, c'est le foncier bâti ou non bâti, donc c'est le financement aujourd'hui qui est souvent un frein. Et donc, de plus en plus, on travaille en collaboration avec des foncières, que ce soit la foncière régionale occitane qui a été dans laquelle les affaires sont parties prenantes, qui est portée par la région Occitanie, que ça soit le fonds Élan qui vient d'être créé en complément avec les affaires de France et 3-4 banques qui viendront aussi, c'est un nouvel outil qui viendra compléter demain, on l'espère, et qui va monter en puissance des projets d'installation. Ça va être aussi de travailler de plus en plus avec des partenaires comme Hectarea, comme Eloi, des agences particulières comme Primoterra,
consistent en quoi?
En fait, ce sont des agences, certaines qui travaillent spécifiquement dans le milieu agricole et qui travaillent en collaboration, pas sur tous les dossiers, mais majoritairement sur les dossiers avec nous, et qui ont sans doute des fenêtres pour attirer des porteurs de projets que nous n'avons pas. Et quand on est en amont dans le projet, ça facilite grandement le bon déroulement des opérations administratives, et donc le dossier a plus de chances d'aller au bout. Et donc quand les financements sont garantis, quand on a le porteur de projet qui a été identifié, qui est sérieux, et que nous, on a fait avec le partenaire le boulot, on va dire, administratif, technique et juridique, il n'y a plus qu'à dérouler les process et le timing pour qu'on aille à la signature de l'acte. Et ce que je vous disais avant de commencer l'interview, on est grosso modo sur, si tout va bien, sur 12-14 mois, un dossier qui est rondement mené. Et quand le dossier est un petit peu plus complexe, parce qu'on a aussi des dossiers complexes avec des parts de société, avec des choses aussi qui prennent un petit peu de temps, on peut monter jusqu'à 18-20 mois. L'essentiel, c'est que des fois, il faut savoir tant pis perdre un peu de temps pour aller au bout. Ça, c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'il faut pas forcément se presser. Voilà. Donc le financement en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Mais ça fait évidemment partie du pack de base. Et après, il faut que juridiquement la société peut-être soit créée. Il faut que les acquéreurs soient bien d'accord, parce qu'ils sont des fois plusieurs à être acquéreurs du projet, qu'ils aient vendu peut-être leur maison. Enfin, que tout soit bien carré pour que le dossier ait toutes les chances d'aller au bout. Voilà.
Et quelles collaborations pourraient être mises en place avec d'autres structures déjà sur le territoire ?
Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. En toute modestie, sur le temps et Garonne, on essaie vraiment de maximaliser autant que possible le réseau. On a fait ces 5 dernières années, je trouve, pas mal d'actions à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce soit avec l'ADA, avec la Chambre, avec la région, avec l'Office de tourisme, avec je pense la Logique de France, avec un certain nombre d'associations.
Agricole
aussi. Oui, on travaille de plus en plus et je travaille moi tout le temps avec eux. Moi, je renvoie systématiquement tous les porteurs de projets quand ils ont besoin d'avoir une information globale, le point accueil et installation, pour qu'ils aient une information au moins générale et puis qu'ils puissent s'orienter vers ça. Quand ils ont besoin d'aller voir le CER aussi, parce que je pense qu'il faut absolument avoir un business plan ou au moins une étude sérieuse, pas trop ambitieuse, mais sérieuse, qui tienne bien la route, pour que les candidats soient en mesure de dégager assez rapidement un revenu, parce que, quoi qu'on en dise, le nerf de la guerre demain, ce sera de dégager un revenu pour pouvoir rembourser de toute façon les annuités ou payer le fermage. Donc dans tous les cas, il faudra quand même que l'activité économique soit prise en considération et que s'installer dans l'agriculture au jour d'aujourd'hui, il y a quand même cette obligation de dégager un revenu. Voilà. Travailler, faire des journées de 10 heures sans gagner de sous, c'est vite bloquant. Voilà. Il faut que la personne ait cette capacité à au moins rentrer rapidement dans ses frais pour pouvoir payer ce qu'il doit et pouvoir être serein dans le développement et la montée en puissance de son entreprise.
Oui, reprendre une ferme qui est déjà en marche aussi, oui. Ça peut faciliter.
Absolument. Alors on a les deux. Soit on a des propriétés qui sont prêtes à reprendre l'activité là, les clients, le fichier client, les recettes parfois. Il n'y a plus qu'à reprendre. Alors ça serait quelqu'un qui idéalement se mettrait à y reprendre la suite telle qu'elle. Mais souvent on a des projets avec des porteurs de projets qui ont envie d'y mettre leurs pattes et donc qui veulent un petit peu autre chose. Donc on va dire que moi, dans mes reprises, j'ai à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire à peu près autant de porteurs de projets qui reprennent la propriété de Monsieur Dupont pour refaire la production de Monsieur Dupont, l'améliorer, et on en a autant qui veulent reprendre la propriété de Monsieur Dupont mais pour y faire autre chose. Ou créer un nouvel atelier, peut-être. Donc, parce qu'il faut quand même qu'on ait la motivation. Il y a des gens qui ont envie de travailler dans la partie élevage, d'autres pas du tout. Il y en a certains qui ont envie de faire de la culture et d'autres pas du tout. Donc il y en a qui ont envie de faire du commerce, certains pas. C'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, le métier d'agriculteur est un métier à plusieurs casquettes, hein, sauf que je dis toujours, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc les projets trop ambitieux au départ, il faut un petit peu les raisonner, leur dire attention, produire c'est bien, aller faire le marché c'est bien, mais il y a pas mal de choses à faire entre et des fois d'avoir trop peu d'équivalents temps plein ou d'être tout seul sur un projet, il faut y faire attention. Donc c'est notre boulot aussi de dire attention à ce que ça soit équilibré, qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, il vaut mieux monter crescendo, parce que produire, préparer les commandes, livrer les commandes, revenir, Il faut manger, dormir, accessoirement avoir une famille. Donc, ça fait des fois beaucoup dans une journée. Donc, il faut que le porteur de projet ait conscience de tout ça. Donc, la facilité, des fois, c'est de... Enfin, la facilité, je dis ça entre guillemets, c'est de reprendre ce qui existait, parce que ça, c'est rassurant. Et puis, la banque a surtout, s'il faut rembourser, on a déjà des chiffres qui existent, donc ça permet de se projeter plus facilement. Créer un nouvel atelier, c'est plus difficile parce qu'il faut se projeter et ce sont des hypothèses. Hein, donc ça veut dire qu'il faut que le marché soit là, ça veut dire qu'il faut que la production soit de qualité, soit constante, qu'on n'ait pas un aléa climatique. Donc il y a du pour, il y a du contre. On essaie aussi de leur dire tout ça. Voilà.
Vous venez d'écouter Pierre-Yves Calmette, conseiller dans les ventes de propriétés rurales à la SAFER du Tarn-et-Garonne. Vous êtes bien dans les voies paysannes réalisées par l'ADR 82. Aujourd'hui, on parle des enjeux du renouvellement des générations agricoles, de ses freins et des leviers qui sont mis en place. Tout de suite, une petite coupure musicale et nous revenons juste après pour la suite de l'épisode. Venez d'écouter l'artiste Pomme et son titre Sequoia. Nous sommes de retour dans l'émission Les Voix Paysannes et nous donnons la parole à Anaïs Bayol, accompagnatrice dans la transmission agricole dans l'association ADR 82.
Bonjour, je suis Anaïs Bayol, je suis animatrice à l'ADR sur la partie transmission et notamment sur la mise en relation des cédants et des repreneurs. L'ADR 82, une de ses missions principales, c'est de faire de l'accompagnement à la transmission. C'est ma collègue Aurélia Leclerc donc, qui est sur ce poste-là. Ce qu'elle va réaliser principalement, c'est des accompagnements individuels. Elle va faire des rendez-vous avec des cédants pour réaliser un diagnostic de ferme. L'idée, c'est d'aller sur les fermes, de faire une visite, de faire le point avec les cédants sur... Tous les aspects de la transmission, parce qu'une transmission, c'est assez complexe. Ça va toucher les histoires patrimoniales, économiques, familiales, l'émotionnel. la question de l'habitat et puis le projet de retraite aussi des cédants. Elle organise aussi une formation collective pour échanger entre pairs et voir un petit peu tout ça en groupe. En fait, l'idée de cet accompagnement, c'est d'arriver pour les cédants, d'avoir un projet de transmission clair avec toutes les options envisageables. L'idée, c'est aussi de faire des scénarios, d'être sûr de ce sur quoi on ne veut pas transiger, qu'est-ce qui est possible, pas possible, et d'avoir des jalons pour concrétiser sa transmission. Il y a aussi des enjeux de restructuration sur les fermes. Des fois, l'activité, elle a décliné un petit peu, elle a été réduite. Et donc, il y a des choses à mettre en place sur la ferme, à restructurer. Ça peut être des modifications de bâtiments, ça peut être une mise aux normes, ça peut être des nouveaux ateliers installés. Ça peut être diviser la ferme aussi pour la rendre plus accessible. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire avant la transmission, il y a des choses qui peuvent se faire pendant la transmission en collaboration avec le porteur de projet, ou il y a des choses qui peuvent être faites tout simplement par les porteurs de projet une fois la ferme reprise. Voilà, l'idée de cet accompagnement, c'est aussi de faire ces scénarios, comme je disais. Et puis, l'aboutissement un petit peu de ce travail, c'est de formaliser une petite annonce qu'on va pouvoir publier sur nos réseaux. Cette annonce, c'est juste la synthèse en fait de toutes de tous ces scénarios, de toutes ces réflexions, qui servent de base de discussion pour justement cette mise en relation avec des potentiels repreneurs.
Et donc justement, est-ce que vous pouvez présenter le principe de la plateforme des petites annonces et de Objectif Terre, qui est une autre plateforme?
Oui, alors du coup, on diffuse ces petites annonces sur notre... On a créé une plateforme au niveau régional qui nous permet... C'est une plateforme cartographique, donc on peut visualiser sur le territoire où se situent les fermes à reprendre. On peut aussi mettre des annonces pour des porteurs de projets qui cherchent des terres ou des offres d'emploi. Et du coup, ça permet d'avoir un accès facile à toutes ces petites annonces. Ensuite, on publie sur la plateforme Objectif Terre, qui est un site internet qui a été mis en place par Terre de Liens. Terre de Liens qui commence à être assez connue. Donc cette plateforme, elle est assez visitée, on va dire, par les porteurs de projets.
Et c'est à l'échelle nationale.
C'est à l'échelle nationale. Il y a des critères de recherche. On peut trier par région, département, par type de projet que l'on recherche. Donc ça permet d'avoir une grande visibilité, on va dire, pour chercher des repreneurs.
Il y a une sorte de démultiplication des plateformes. J'ai l'impression qu'il existe... de nombreuses plateformes, notamment la SAFER. Donc, l'intérêt d'en créer plusieurs.
Au niveau de la mise en relation cédant-repreneur, c'est vrai qu'il y a plusieurs canaux et plusieurs plateformes, oui, pour partager son projet de transmission. Donc, nous, on a notre plateforme. Il y a le RDI de la Chambre. Il y a la SAFER avec propriété rurale. Voilà, donc il y a plusieurs plateformes qui sont complémentaires ou qui permettent de toucher différents publics, on va dire.
Et donc, on entend souvent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui veulent reprendre. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela?
On le répète depuis pas mal d'années, il y a la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. Donc, il y a besoin de porteurs de projets. On a des porteurs de projets qui viennent toquer à notre porte, mais il en faudra encore plus. Il y a un vrai défi au niveau du renouvellement des générations. Il y en a, mais pas suffisamment. Donc, il s'agit de susciter des vocations de manière plus large. Et donc, les fils et filles d'agriculteurs ne suffisent pas. Nous, notre public principal, ce sont les NIMA, les nouveaux installés, donc non issus du milieu agricole. souvent, c'est des reconversions professionnelles. Ils amènent voilà, une sorte de souffle nouveau à la profession avec un autre regard, d'autres envies, d'autres manières de travailler. Il y a aussi, des fois, un fossé culturel ou générationnel du rapport au travail. C'est vrai que des fois, on a une vision un peu dure de la profession agricole. Et c'est un métier qui n'est pas toujours... Ce sont des métiers, parce que le monde agricole est très divers. Mais il peut y avoir voilà, un rapport au travail qui est différent maintenant. Et justement, l'idée, je pense que c'est de rendre à nouveau ces métiers attractifs. Il s'agit d'être inventif afin d'expérimenter des nouvelles formes de partage du travail. Nous, à l'ADR, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le travail en collectif. On essaye d'encourager l'installation en collectif pour partager la charge du travail, la charge physique et la charge mentale, voilà, partager des astreintes. Et de sortir de l'isolement en fait que peut être le métier par moment.
Et donc peut-être qu'on en a déjà un petit peu parlé juste avant, mais que constatez-vous quant à la mise en relation des cédants et des repreneurs? Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement difficile?
Nous, on voit souvent qu'il y a une inadéquation entre la recherche des porteurs de projets et l'offre du marché des fermes à céder. Une différence par rapport au prix. Souvent, on accompagne des porteurs de projets qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup de capitaux à apporter. Ils recherchent plutôt des petites surfaces de quelques hectares. Plutôt des projets de type d'agriculture biologique et donc et potentiellement aussi avec une habitation sur place et on s'aperçoit que les fermes à céder sont de plus en plus grandes avec beaucoup d'infrastructures assez grandes et donc forcément avec un prix un peu plus élevé donc il y a vraiment cette inadéquation et donc c'est vraiment un gros enjeu. Et tout à l'heure, j'en parlais, la restructuration peut être... il y a une vraie réflexion sur la restructuration des fermes, que ce soit en amont ou au moment de l'installation, que ce soit pour diviser, partager des fermes, s'installer en collectif, comme je le disais juste avant, ça peut être des réponses. Mais ça prend du temps, tout ça. La transmission, c'est aussi la mise en relation entre les cédants et les repreneurs. C'est quelque chose qui se fait sur un temps long et souvent on se retrouve avec face à nous des porteurs de projets soit qui veulent s'installer tout de suite ou des cédants qui en fait veulent partir tout de suite à la retraite ou arrêter leur activité de manière un peu rapide et malheureusement ça correspond pas à la réalité des besoins en fait de temps pour construire un projet d'installation et de transmission. Parce qu'en fait, en général, pour un cédant, c'est bien entre 3 et 5 ans, avant le départ à la retraite, de commencer à penser à son projet, d'anticiper, de lancer la réflexion, parce que comme je le disais auparavant, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, tant au niveau personnel, des implications personnelles, que par rapport à l'outil de travail en tant que tel. Voilà, je parlais de restructuration tout à l'heure. Il peut y avoir des choses qui sont à réfléchir en amont pour rendre la ferme plus attractive. Ça peut être une mise aux normes, des travaux de mise aux normes sur certains bâtiments. Il peut y avoir la conversion des terres en bio qui peut s'anticiper. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi en parallèle avec un potentiel repreneur. Si on est sur une ferme arboricole, replanter un verger, mais avec les variétés ou le type d'arbre que le repreneur voudrait. Il y a pas mal de choses qui peuvent être réfléchies. Il y a aussi des scénarios de reprise du foncier, par exemple. Il peut y avoir... il n'y a pas que la vente, en fait, qu'on peut envisager. Il peut y avoir des locations-ventes. Il peut y avoir... On peut diviser en lots. Il peut y avoir des constitutions d'un GFA. On peut mettre en fermage aussi. Et souvent, les cédants ont pas conscience de l'ensemble des possibilités qui peut s'offrir à eux. Souvent, ils pensent qu'ils vont vendre, voilà, ils vont trouver un repreneur qui va racheter la ferme, point barre, en fait. Alors que, comme je disais, les porteurs de projets n'ont pas forcément les moyens, donc c'est pas évident de trouver voilà, quelqu'un qui va racheter la ferme telle qu'elle. Et donc, du coup, pour tout ça, en fait, il y a un besoin d'accompagnement. Et donc ça, c'est notre travail à l'ADR, en fait. La petite annonce, c'est vraiment l'aboutissement de ces réflexions. Mais c'est aussi, voilà, c'est ce temps long, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez. En fait, c'est vraiment prendre le temps, anticiper. On peut aussi, le temps long, c'est aussi qu'on peut changer d'avis. Enfin, voilà, on peut faire mûrir son projet. Il y a aussi la question des essais-erreurs, c'est-à-dire que on peut faire un essai avec quelqu'un, avec un repreneur, et ça marche ou ça marche pas. Donc je pense aussi qu'il faut se laisser le temps de l'erreur, le temps de la réflexion, parce que la transmission, c'est aussi une histoire de confiance entre un cédant et un repreneur. C'est pas juste on vend son terrain, souvent on vend... On transmet son savoir-faire, ses connaissances du lieu, des terres, de l'environnement. C'est un réseau local. Voilà, ça dépasse largement la question de la vente stricto sensu d'un terrain. Et donc, comme je disais, c'est une relation aussi qui peut se créer. Hein, entre deux parties, et c'est une histoire de confiance, et donc ça peut se passer via du salariat sur la ferme. Il peut y avoir des stages, voilà, des visites régulières, et donc ça, voilà, il peut y avoir des contrats CEFI que nous, par exemple, on accompagne à l'ADR. Le CEFI, c'est un contrat particulier qui est proposé, c'est une sorte de stage rémunéré par la région. Et donc ça, voilà, c'est un dispositif assez avantageux pour justement accompagner une transmission. Donc ça fait partie des missions qu'on peut mener à l'ADR. On peut aussi, enfin, on organise des cafés cédants repreneurs pour faire se rencontrer les cédants, les repreneurs, parler du métier. On peut organiser des visites de ferme, voilà, donc ça fait, voilà, l'ADR met en place différents outils et différentes manières, en fait, pour faire se rencontrer les cédants et les repreneurs.
Si vous cherchez à vous installer en agriculture ou à transmettre votre ferme, vous pouvez retrouver sur notre site web des annonces de fermes et de terres à vendre ou à louer, ou encore des annonces d'agriculteurs qui souhaitent s'associer. Autrement, les plateformes d'annonces qui ont été évoquées dans l'épisode s'appellent Objectif Terre et Propriété Rurale, présentes sur Internet. C'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, d'autres émissions ont déjà été réalisées sur le sujet du foncier agricole, de la transmission et de l'installation agricole. Vous pouvez les retrouver en rediffusion sur le site web de CFM Radio en cliquant sur le podcast Les Voix Paysannes et sur le site web de l'ADR 82 www.agriculturepaysanne.org/ADER82. Pour les prochains épisodes, vous pouvez retrouver l'émission tous les premiers mercredis du mois sur CFM Radio à 19h et le dimanche qui suit à 20h. Nous proposons tous les mois des formations techniques destinées aux agriculteurs et aux curieux. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations au 06 46 74 70 69. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain sur l'antenne de CFM Radio. C'était Les Voix Paysannes de l'ADR 82.